Bonjour Jean-Gilbert, bonjour vos amis, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les tout premiers connectés ce matin. Bonjour à la belle-mère. Je vais juste aller voir un petit truc, m'assurer que tout fonctionne bien, ça semble aller. Voilà. Donc on est jeudi le 28 octobre 2021. Journée ensoleillée, un peu fraîche, mais du soleil aujourd'hui. Juste agréable pour prendre une petite marche à l'extérieur sans avoir trop chaud ni trop froid. On espère que la journée d'hier s'est bien passée. Comme vous savez, je n'étais pas en onde hier, différents rendez-vous ces jours-ci. En fait, je viens d'arriver d'un autre rendez-vous. Ça fait déjà un petit moment que je suis réveillé, en fait. Je suis debout depuis 2h du matin. Donc, un peu d'insomnie, ça m'a permis d'étudier, de prier, de réfléchir, de méditer, de lire. Puis après ça, il fallait amener Daphné au travail, revenir tout de suite pour mon rendez-vous médical de ce matin. Après quoi, je suis retourné à la maison pour préparer la diffusion ce matin. Donc, si vous voyez des yeux qui sont un peu plus petits aujourd'hui ou qui clignent, qui se rapetissent pour essayer de voir ce qu'il y a sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle juste un peu de sommeil à rattraper. Bonjour Immaculate. Bienvenue parmi nous, que Dieu vous bénisse, content de vous avoir. Lucie, je ne me rappelle pas si je vous ai salué. Donc permettez-moi de le faire une deuxième fois si je ne l'ai pas fait. Si je l'ai déjà fait, permettez-moi de le faire une deuxième fois. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Natacha, bonjour Indirène, et bien le bonjour à la petite famille aussi. Donc vous avez encore un petit 6 ou 7 minutes avant qu'on ne débute notre enseignement du jour. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Thérèse, bonjour. Myriam, Donald, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse dans la belle ville d'Ottawa. C'est une jolie ville, Ottawa, pour ceux qui ne sont jamais allés. C'est pas tellement loin d'ici, donc environ 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, je crois, de route, mais une bien jolie ville. Ça fait beaucoup penser à certains endroits en Europe. En fait, Ottawa me fait penser à Genève particulièrement, bizarrement. Bon jeudi, la belle-mère, que Dieu vous bénisse. Et shalom à vous aussi. Janine, bonjour. Content que vous soyez avec nous ce matin. Shalom, shalom à la mère supérieure. Quand je parle de la mère supérieure, c'est ma mère. Que Dios me la bendiga, hermana Flori. Alors je sais qu'habituellement, elle nous regarde en différé après coup. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Marta Lucia Arce. Donc on la salue, on lui souhaite un très joyeux anniversaire, la sœur Marta Lucia. Bonjour Gérard, bonjour Denise. Donc ma mère semble aimer son sobriquet de mère supérieure. Pour les plus âgés, j'aurais pu toujours l'appeler la sœur volante aussi, là, jusqu'à un certain point. Si elle aime le sobriquet de mère supérieure, on aurait pu l'appeler la sœur volante. Mais ça, c'est juste les plus vieux qui vont se rappeler de cette émission-là. Merci Gérard, merci Denise pour vos bons souhaits. Si je me rappelle bien, celle qui jouait la sœur volante, c'était Sally Fields, je crois. Donc ce matin, on continue notre étude sur la thématique Ranime-toi avec. Comme verset pour la semaine de Timothée 1:6, mais à chaque jour on avait un aspect de la ranimation ou du renouvellement auquel on était invité. Donc aujourd'hui on a un troisième verset qu'on étudie, donc 2 Timothée 1:5. Ouais, la sœur volante, ça ne nous rajeunit nullement, hein? Bizarrement, il semble y avoir une petite coupure au niveau de la diffusion. J'espère que le problème n'apparaîtra pas, que c'est juste sur mon cellulaire que ça a fait ça. Donc prions. pour débuter. Après ça, je vous indique les petites nouvelles pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ton soutien. Merci d'être là, Seigneur, matin après matin pour nous nourrir, pour nous abreuver, pour répandre sur nous ta grâce, ta bénédiction et nous permettre, Seigneur, d'avoir accès à ta parole. Ce matin, on pense à certains de nos frères, de nos sœurs, dans des contrées où lire ta parole est interdit, où posséder même une Bible est passible d'une condamnation sévère. Donc aujourd'hui, Seigneur, on ne veut pas prendre pour acquis cette grâce, ce privilège que nous avons d'avoir une Bible devant nous, d'y plonger nos regards librement, sans crainte de quelque répression que ce soit. Mais Seigneur, on veut t'honorer avec toute notre attention, avec tout notre désir, d'être enseigné par toi et plus encore d'appliquer ces enseignements dans notre vie. Alors Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis-moi aussi Seigneur qui partage cette exhortation ce matin. Et en toute chose, que la gloire ne soit pour rien à nous, mais que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on approfondit cette semaine l'enseignement qui a été prodigué par le pasteur Sergio dimanche matin dans la thématique « Ranime-toi ». Et à la toute fin de l'enseignement, ou dans la dernière partie de l'enseignement, il avait quatre éléments qu'il nous a partagés comme étant nécessaires dans ce travail de ranimation, on va dire, dans ce travail de renouvellement dans notre vie. Alors, il parlait d'une reconsécration à Dieu qui était nécessaire. Il parlait d'un retour à une sensibilité face à la parole de Dieu. Et ces deux points, on les a vus lundi et mardi. Aujourd'hui, on parle d'une foi sincère qui se doit d'être renouvelée. Et demain, on parlera d'une communion avec Dieu qui, une fois de plus, doit être aussi renouvelée. Alors, le verset thème pour la semaine, 2 Timothée 1, 6, qui nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as, de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce verset-là nous poussait à saisir et à comprendre que la ranimation du don ne dépend pas de Dieu. La ranimation du don ne dépend pas des personnes autour de nous. La ranimation du don ne dépend même pas de notre Église, de notre pasteur, des prières des saints. La ranimation du don de Dieu dans nos vies dépend de nous. Voilà pourquoi Paul ne s'est pas évertué à dire à Timothée, ben, prie pour cela, ou que le Seigneur puisse ranimer, ou invoquer l'Esprit de Dieu pour ranimer le don dans la vie de son fils spirituel. Non, il a dit à ce jeune homme, Timothée, qui servait dans l'église d'Éphèse, ce à quoi je t'exhorte, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu dois ranimer le don de Dieu. Et on a vu donc lundi que cette ranimation du don de Dieu dans nos vies vient tout d'abord par une consécration renouvelée envers Dieu. Donc de s'engager, de faire des vœux, de renouveler nos vœux à l'égard de Dieu. Mardi, on a vu avec l'histoire de ces deux disciples qui au matin du troisième jour où Jésus était enterré, ont quitté Jérusalem et leurs collègues disciples pour partir vers Emmaüs. Jésus va cheminer avec eux jusqu'à Emmaüs en leur parlant suite à la mine toute renfrognée qu'ils avaient, à la mine abattue qu'ils avaient. Jésus va les enseigner sans qu'ils sachent le reconnaître tout d'abord. Il va leur enseigner tout ce qui avait été annoncé, tout ce qui avait été proclamé sur le Messie. Et lorsque Jésus va se rendre dans leur maison pour passer la soirée au moment du repas, lorsqu'il va briser le pain et partager ce pain avec ses deux disciples. À ce moment-là, il va disparaître et leurs yeux vont s'ouvrir pour réaliser effectivement que celui qui était à leur côté pendant tout ce chemin de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, c'était Jésus lui-même. Et ils vont dire, est-ce que ce qu'il nous disait, est-ce que ça ne brûlait pas en nous? Est-ce que ces paroles ne brûlaient pas en notre cœur? Alors c'était une sensibilité à la parole de Dieu qui se doit d'être renouvelée. Aujourd'hui, on va dans 2 Timothée 1, 5. Encore là, c'est un verset qu'on a eu l'occasion d'étudier il y a quelques semaines ou quelques mois plus tôt le cadre des bénédictions matinales. Alors, je lis pour vous 2 Timothée 1, 5. C'est Paul qui parle et qui dit à Timothée qu'il garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Gardant le souvenir. On va avoir 4 points où on va diviser ce verset en 4 sections ce matin. Premier point, gardant le souvenir. Garder, c'est le terme lambanio. Lambanio, L-A-M-B-A-N-O. Je répète, lambanio, garder, L-A-M-B-A-N-O. Et le souvenir, c'est le terme hypomnesis. Hypomnesis, H-Y-P-O-M-N-E-S-I-S. Hypomnesis pour souvenir, H-Y-P-O-M-N-E-S-I-S. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Gardant le souvenir. Garder le souvenir, le terme garder ici, c'est le terme s'approprier. C'est le terme prendre entre ses mains et se l'approprier. Donc ici, c'est plus que tout simplement avoir le souvenir vague, la pensée d'autrefois de ce qui t'animait. Non, lorsque Paul ici est en train de parler de garder le souvenir, ce terme lambagno veut plutôt dire qu'il a pris cette pensée, qu'il a pris ce souvenir comme étant quelque chose de précieux qui ne devait pas se perdre. En fait, Paul est en train de dire qu'il garde le souvenir de l'exemple de la foi sincère qui habitait Timothée à la dernière rencontre qu'ils ont eue l'un avec l'autre, mais qui habita aussi tout d'abord en Loïs et en Eunice. Donc la foi que nous manifestons, cette foi sincère, est aussi l'occasion d'être un témoignage pour les autres. Combien de fois on a été sous l'influence de quelqu'un de par le témoignage, de par l'exposition de la foi qu'il a affichée et qu'on a pu admirer. Je parlais avec un jeune homme hier et je lui disais, et j'en parlais aussi avec mon infirmière ce matin, en lui disant, voyez, ce par quoi je suis passé, ben, ça devient moins difficile le souvenir de tout cela lorsque je sais que c'est utile. Et elle me disait, pasteur, lorsqu'il y a un nouveau patient qui vient me voir et qui est atteint de cancer, je pense à vous et je parle de vous sans vous nommer, sans expliquer les détails de ce qui vous est arrivé, mais je leur parle de l'importance d'avoir la foi et de garder bonne attitude dans tout cela parce que je l'ai vu de vous et ça m'a aidé moi-même dans mes difficultés. Alors cette dame disait, j'ai vu quelque chose, chez toi, pasteur, que j'applique dans ma propre vie. Paul va dire à Timothée ce que tu as appris de moi. Donc, ce que tu as connu de moi. La foi est aussi quelque chose qui se nourrit par l'exemple que nous prenons des autres. Il est important de ne pas croire qu'on est le dernier coca du désert, qu'on est l'exception à la règle, qu'on est le cas exceptionnel de l'humanité. Avant nous, personne n'est passé par là. Avant nous, personne n'a su ceci. Avant nous, personne n'a réagi comme nous. Avant nous, personne n'a été un héros comme nous. Qu'on sache que notre foi aujourd'hui est tributaire de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont donné exemple et qui nous ont conduits dans nos premiers pas, voire dans notre cheminement dans la foi. Je sais que l'homme que je suis aujourd'hui, le serviteur que je suis aujourd'hui, a été guidé, a été influencé, a été enseigné par les exemples de différents hommes de Dieu qui ont cheminé à mes côtés. J'ai appris d'eux. Et Paul va dire que même Timothée, dans la jeunesse, dans la précocité de son ministère, Paul va garder le souvenir, va s'approprier, va faire sien le souvenir qu'il a de la foi active et sincère de Timothée. Cette foi, la conviction de ce qui est vrai. Donc, Paul regardait Timothée, il disait, la confession de foi que tu as fait pour ce qui était vrai, cela a eu un impact chez moi qui suis ton père spirituel. Et il est en train de dire, et cette même foi, toi tu la tiens aussi de ta mère qui la tenait elle-même de sa propre mère. Une foi sincère qui habita tout d'abord dans ton aïeul, Loïs, puis dans ta mère, Eunice, et qui aujourd'hui, je le sais, j'en suis persuadé, et j'en suis persuadé, ça va plus que la connotation française, que je crois que, non, c'est j'ai l'assurance, j'ai la certitude profonde que cette foi habite chez toi. Pourquoi? Parce que Paul avait eu l'occasion de voir Timothée travailler pour Dieu, avait eu l'occasion de voir Timothée affronter les défis avec une foi qui était sincère et qui avait été récupérée, imitée, apprise de son aïeul et de sa mère. Ce qui est intéressant avec le terme « habiter », c'est le terme « enoikeo ». Enoikeo, donc E-N-O-I-K-E-O, E-N-O-I-K-E-O. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire oiko. Oui, je sais, il y a une marque de yaourt ici au Québec qui s'appelle oiko. Le terme enoikeo, c'est justement un dérivé du terme oiko. Oiko veut dire maison. En oikeo veut dire dans la maison. Ça veut dire ce qu'on a fait demeurer ou habiter dans un lieu précis. Ça veut dire que Eunice, Loïs, Timothée, Paul avaient fait demeurer en eux la foi, une foi sincère. Ça veut dire que ce n'était pas tout simplement un add-on. La foi n'est pas tout simplement un don qui te tombe dessus. Oui, il y a le don de foi, et ça c'est une chose différente. Mais la foi dans le sens général de pistis, c'est quelque chose qui est une décision. C'est une décision de croire en une chose. C'est une décision de s'approprier une chose. C'est une décision de s'approprier une vérité particulière que l'on sait véridique, établie, irréfutable. Donc, Paul était en train de dire de Timothée qu'il avait eu cette occasion de voir chez sa grand-mère et sa mère comment elles avaient établi la foi dans leur vie. Elles avaient pris la foi et elles l'avaient établie dans leur vie de tous les jours, dans leur comportement de tous leurs jours, dans la réflexion de tous les jours, dans leurs décisions de tous les jours. Et ce qui est intéressant du cas de Timothée, c'est qu'on se rend compte que Timothée avait une mère qui était juive, mais avait un père qui était grec. Et on ne sait pas du tout, en fait, si le père de Timothée s'est un jour converti. On pense en fait que si Paul a été amené à être un père spirituel pour Timothée, ça serait plutôt parce que le père naturel de Timothée n'aurait pas suivi la même voie que son épouse Eunice ou que sa belle-mère Loïs et qu'il ne se serait pas tourné vers l'évangile de Christ. En ça, la Bible n'est pas claire. Par contre, ce qu'on peut présumer effectivement, c'est que Timothée a été confronté avec la foi diverse et divergente qu'on avait dans le peuple grec de l'époque et la foi naissante, nouvelle, en Christ, que sa mère d'origine juive et sa grand-mère tout aussi d'origine juive avaient, elles, eu à manifester. Et Timothée, un jour, a pris la décision que cette fois, il la faisait aussi habiter en lui. Mais de surcroît à cela, le terme « eunoikeo » va aussi vouloir dire ce pourquoi on s'est fait la demeure. Non seulement on a pris la foi et on l'a fait habiter en nous, mais de surcroît à cela, on a aussi adapté notre vie pour recevoir la foi. C'est comme lorsqu'on parle de devenir la demeure d'une chose, de se faire l'habitation pour une chose, et par conséquent, vous êtes capable de faire le lien où on s'en va là, où Paul va dire à un moment donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche avec la vérité qui le concerne. La présence de Dieu marche avec toutes ces vérités inhérentes à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu habite en nous si la vérité de Dieu n'habite pas en nous. Et ici, Paul, lorsqu'il emploie le terme eunoikeo, il est en train de dire à Timothée qu'il s'est fait l'habitation appropriée pour le Saint-Esprit. Je me suis fait l'habitation appropriée pour une foi sincère. J'ai adapté ma vie à la foi et non pas adapté la foi à ma vie. Il y a trop de gens qui veulent adapter Dieu et adapter leur relation avec Dieu à leur vie, alors que c'est leur existence qui devrait être transformée, qui devrait être malléable au point de s'adapter, elle, à la présence, à la foi, à la parole, à la personne de Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Paul va dire que ce qui habitait en Loïs, puis ce qui habitait en Eunice, et ce qui habitait aussi en Timothée, c'était une foi sincère. Foi, bien entendu, c'est le terme pistis, donc une conviction de ce qui est vrai. Cette assurance ineffable, cette assurance inébranlable de ce qui est vrai, de ce que l'on a reconnu comme véritable, comme véridique. Et on sait, ça a donc trait à Dieu. Mais il dit une foi qui est sincère. Le terme sincère, c'est le terme en grec « anipokritos ». Anipokritos. A-N-Y-P-O-K-R-Y-T-H-O-S. Anipokritos, A-N-Y-P-O-K-R-I-T-H-O-S, qui vient du mot hypocrite, ou qui n'est pas hypocrite. Une foi sincère, c'est une foi qui n'est pas hypocrite. Une foi sincère, c'est une foi qui ne peut pas être feinte. On ne peut pas faire semblant. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. En fait, tu peux faire semblant, tu peux l'afficher face aux hommes, Mais face à Dieu, tu ne peux pas prétendre l'avoir si tu ne l'as pas. Tu ne peux pas faire semblant de l'avoir si tu ne l'as pas. Et il arrive certaines circonstances dans nos vies où cette foi est mise au défi et à ce moment-là, on ne peut pas faire semblant. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Comme je disais tout à l'heure, hier, j'avais une rencontre avec un jeune homme et on parlait, un homme aujourd'hui en fait, mais il est plus jeune que moi. Donc, j'avais une rencontre avec un frère hier et on parlait de toutes ces péripéties dans lesquelles on passe en tant qu'enfant de Dieu. Et on est allé bien sûr sur ma propre histoire. Et j'ai dit, tu vois, il arrive des moments où tu ne peux pas faire semblant de ton allégeance par rapport à Dieu. Il est arrivé, lui, à un moment donné, dans un point où il était à quelques fractions de secondes de la mort. Dans un accident particulier, dans un incident particulier. Et il savait qu'à moins que Dieu n'intervienne, il savait que la fin de ses jours était arrivée. Et à ce moment-là, il a fait un peu la même prière que moi j'ai eu à faire lorsque le verdict du cancer était tombé sur moi, où on va dire, Seigneur, c'est correct. Que tu me prennes ou que tu me gardes, c'est correct. Et je lui disais, tu vois, cet instant-là précis qui dure une fraction de seconde a un impact sur le restant de notre vie. On ne peut pas faire semblant de dire, c'est correct, Seigneur. On ne peut pas faire semblant de lui donner dans cet instant particulier où on est confronté avec notre propre existence, voire avec la fin de notre propre existence, on ne peut plus faire semblant. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui passe par une telle expérience. Et j'aimerais tellement que tous puissent y passer, mais on en convenait en disant, c'est peut-être pas tout le monde dont la foi resterait forte dans un tel moment. Plusieurs, et la Bible va nous dire, Paul va utiliser le terme, ont fait naufrage quant à la foi. Ça veut dire qu'à un moment donné, la tempête est venue et leur foi a été ballottée et cette foi, en raison de la tempête, a fait naufrage. Ça veut dire que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux passer par une tempête et si ta foi n'est pas ce qu'elle doit être, elle va faire naufrage. Donc, ça prend d'arriver à cet engagement. Ça prend d'arriver à cette foi qui se matérialise par quelque chose qui ne peut pas être fin, qui ne peut, vers lequel on ne peut pas faire semblant. Soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. La deuxième pensée dans Anhypokritos, c'est une foi qui ne peut pas être cachée. Il y a non seulement qui ne peut pas être feinte, mais qui ne peut pas être cachée non plus. Paul, peu importe où il allait, cette foi irradiait sa personne. Peu importe où il allait, cette foi se propageait par ses propos. Peu importe les circonstances favorables ou non, il prêchait l'Évangile. Et il disait à Timothée, « Prêche en toute occasion, favorable ou non. » Lorsque les situations sont défavorables, lorsqu'elles sont terriblement défavorables, très souvent, on va se taire et à ce moment-là, on pourrait nous interroger sur notre foi. Notre foi était-elle sincère? Elle n'a pas résisté à la tempête. Elle n'a pas résisté à la menace. Elle n'a pas résisté à cette confrontation. Elle n'a pas résisté à ce moment défavorable. Une foi anhypokritos est une foi qu'on ne peut pas cacher, qui va s'entendre, qui va se voir. Au même titre où Paul était capable de voir la foi de Timothée, au même titre où Paul avait vu la foi dans la vie de la grand-mère de Timothée Loïs, au même titre où Paul avait vu la foi se manifester dans la vie d'Eunice, la maman de Timothée. La foi dans ta vie, la foi dans ma vie doit se manifester, ne peut pas être gardée cachée, ne peut pas être éteinte, ne peut pas être tue. Notre foi doit s'entendre, notre foi doit se voir. Un point tout particulier de la foi chrétienne, le prosélytisme fait partie de la foi chrétienne. Le fait de témoigner de Christ, c'est partie intégrale de notre foi en Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ce qui les envoyait à faire, c'était d'aller, d'être des témoins un peu partout. Donc de parler de ce qu'ils avaient connu, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu. À la base même de notre foi chrétienne, il y a inexorablement un appel au prosélytisme, un appel à l'évangélisation, un appel au témoignage. Notre foi doit s'entendre, notre foi doit se voir. Voilà pourquoi je ne suis pas du tout, mais pas du tout, un fervent de la laïcité. Parce que la laïcité, dans ce qu'on fait de cette laïcité aujourd'hui, on essaie de prôner à ce que la foi ne puisse se manifester que dans les résidences privées, que la foi ne puisse se manifester que dans des lieux bien confinés pour ne pas déranger les autres. À la base, la foi chrétienne est une foi qui se partage. L'appel que Christ nous a donné à tous et chacun, c'était d'être ses témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de se taire. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de museler sa foi. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de cacher sa foi. L'exposition de notre foi, le discours de notre foi est partie intégrale, est partie importante et est une base, ou comme on dirait en Europe, en France, c'est un point basique de la foi chrétienne. Un chrétien évangélise. Un chrétien parle clairement, délibérément, volontairement de Jésus et clairement de Jésus. Dernier point, lorsqu'on parle de anhypokritos, c'est une foi qui ne peut pas être déguisée ou altérée. Ce n'est pas une foi qu'on met sous des apparences, qu'on associe à d'autres choses qui sont « Ah oui, mais crois simplement à l'au-delà, crois simplement à l'être suprême. » Non, non, la foi de Jésus va parler de Jésus. On n'est pas déiste qui croit tout simplement à un être supérieur quelque part, et que ce soit Mohamed, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, que ce soit celui-ci, que ce soit celui-là, sont tous pareils et c'est tous le même Dieu. Ce n'est pas biblique. La foi chrétienne, la foi de la Bible, dit « il n'y en a qu'un seul ». Et celui-ci ne peut pas te demander de faire une chose et dans une autre religion te demander de faire le contraire. Le Dieu de la Bible est un Dieu unique. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul, il est l'unique. Dieu n'est pas Allah. Et même si ça m'attire quelques problèmes, je le répète, le Dieu de la Bible, ce n'est pas Allah. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas Bouddha. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui-ci ou celui-là qu'on pourrait avoir dans telle religion indienne, dans telle religion asiatique, dans telle religion du Proche-Orient ou autre. Le Dieu de la Bible est le seul et unique créateur de l'univers, qui a tant aimé le monde, qui est pécheur et qui a donné son Fils pour que tous les pécheurs qui croiraient en lui, qui se repentirait, soit sauvé. La foi chrétienne, la foi qui habitait Eunice, qui habitait sa mère Loïs, qui habitait le fils Timothée, cette foi sincère était une foi qui s'affichait, une foi qui s'annonçait, une foi qui se proclamait, une foi qui se prêchait de façon claire, de façon précise, de façon nette. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, lorsque tu t'affiches avec Jésus, lorsque tu veux que ta foi soit renouvelée, c'est cette foi sincère qui dit que Jésus est le seul, l'unique sauveur du monde. Qui dit que nous sommes tous pécheurs, condamnés et condamnables à cause de notre péché.
et que la seule voie de salut est uniquement, et je répète, uniquement en Jésus. Il n'y a de salut en nul autre qu'en Jésus. C'est ça la foi. C'est ça la foi sincère. C'est ça la foi qu'un enfant de Dieu doit avoir. C'est ça la foi que tout chrétien devrait avoir. Une foi qu'on ne peut pas taire, une foi qu'on ne veut pas taire, une foi qu'on affiche, une foi qui se donne aussi à voir, qui se donne aussi à être entendu, qui se donne aussi en exemple pour ceux qui sont autour de nous et pour les générations qui nous suivent. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, on est confronté avec le sujet de la foi. Est-ce que j'ai la foi telle que ta parole nous l'enseigne? Est-ce que j'ai cette foi que je ne peux pas dissimuler? Une foi que je ne peux pas faire semblant d'avoir? Est-ce que je suis convaincu, mais réellement convaincu? Et peu importe ce qui survient autour de moi, je reste convaincu de ce que j'ai proclamé comme étant vrai. Seigneur, chacun d'entre nous, à un moment donné, connaissons la bataille de notre foi, le combat de la foi, dans lequel des doutes viennent à poindre à l'horizon, dans lequel notre foi est confrontée avec des situations qui veulent l'amenuiser, qui veulent la faire taire. Je prie pour la foi de ma sœur. Je prie pour la foi de mon frère. Je prie tel que tu as prié pour Pierre, que notre foi ne diminue pas. Je prie, Seigneur, que notre conviction que Christ est le seul, l'unique et le totalement complet Sauveur qui nous était nécessaire, qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre salut. Je prie, Seigneur, que cette foi soit si forte en nous, si concrète dans nos vies, qu'elle s'exprime par nos propos, par nos actions, par notre mode de vie. Que lorsque ma sœur parle, qu'on entende sa foi en Jésus. Que lorsque mon frère vit, que cette foi en Jésus soit visible dans ses actions, dans son attitude, dans ses plans, dans ses projets. Seigneur, je prie pour un renouvellement d'une foi sincère dans nos vies. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, merveilleux nom du seul et de l'unique Sauveur, Christ Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin. On vous rappelle juste deux petites choses. Les inscriptions pour l'assemblée de dimanche pour assister en présentiel ont toujours cours jusqu'à demain midi. Donc, on vous invite soit à écrire, soit à appeler au secrétariat de l'Église pour vous inscrire. Et puis aussi, demain, deux rendez-vous, journée de prière, oui, et de jeûne, mais deux rendez-vous demain. Donc, demain matin, 8h30 pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine et demain soir, 19h pour notre temps de prière et d'intercession. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, bonne journée et surtout, affichez votre foi aujourd'hui, témoignez de Jésus. La foi en Jésus, ça s'entend, ça se voit. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.